Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leurs méthodes et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire un truc de ouf. 75% d'entre vous ne sont pas encore abonnés au podcast sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast ou Spotify. Si vous appréciez ce podcast, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner via votre application d'écoute favorite. Votre abonnement aide véritablement le podcast à se développer. Et plus vous êtes nombreux, meilleurs seront les invités. Un grand merci d'avance. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Inès Melia. Bonjour Inès.
Bonjour.
Je suis très content d'enfin pouvoir t'interviewer, passer un petit moment avec toi. Pour contextualiser, alors c'est pas ton appartement, donc on va pas dire que on va pas contextualiser aujourd'hui. On va commencer directement à la deuxième question. C'est qui es-tu? Comment tu te présentes au monde quand on te demande de te présenter dans la vie?
Eh ben, je dis que je m'appelle Inès, que je fais de la peinture, de la sculpture et aussi de la musique.
Ouais. Très bien.
Voilà.
Parfait, simple, efficace. Et deuxième question, enfin troisième question maintenant, c'est j'aimerais bien revenir en fait sur toute ta vie, toute ta carrière, depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et à être qui tu es? T'es née où et t'as grandi où?
Alors, je suis née dans le sud de la France, je suis méridionale, dans un petit village entre Châteauneuf-du-Pape et Courthézon. Et voilà, donc j'ai grandi... autour de... Enfin, à la campagne et entourée de vignes.
D'accord. Et donc, tes parents étaient dans le vin, c'est ça, hein?
Exactement, ouais.
Ouais. Et qu'est-ce que t'aspirais à faire, alors, quand t'étais petite?
Bah, j'ai l'impression que j'ai toujours été très rêveuse. Enfin, je passais beaucoup de temps à rêvasser, en fait. Et, ouais. Et j'ai eu le sentiment, en fait, que mon imaginaire était presque plus réel que le réel et que tout ce que je savais faire, finalement, c'était être dans ma bulle et lire des bouquins, crayonner... J'ai toujours eu ce truc en fait pour fabriquer des choses, des cabanes, des constructions, voilà.
Ta première rencontre avec l'art, avec le dessin, c'est arrivé comment? Tu te rappelles?
Ouais, alors c'est une rencontre assez traumatisante en fait, parce que je sais pas si tu te souviens, mais dans les années 2000, il y avait eu une éclipse solaire.
Oui, c'est vrai.
Et je me rappelle qu'on avait tous, on nous avait donné en fait des lunettes pour regarder cette éclipse. Et moi, à un moment, je sais pas pourquoi, mais j'avais voulu regarder l'éclipse sans les lunettes. Et je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et je me souviens que ça m'avait vachement traumatisée parce que j'avais l'impression que j'allais devenir aveugle.
Parce que quand on regardait l'éclipse sans lunettes,
c'était hyper dangereux, en fait.
Tu pouvais perdre la vue, potentiellement.
Mais j'ai regardé 5 secondes. Mais d'accord. C'était assez pour moi pour penser que j'allais devenir aveugle toute ma vie. Et donc, j'osais pas dire à mes parents que j'avais fait ça. Et j'ai commencé, en fait, à découper... tous les yeux que je trouvais dans les magazines, donc des visages et des yeux, et à faire des collages. Et en fait, j'y ai pensé rétrospectivement en me disant, c'est la première fois que j'ai commencé à faire quelque chose avec mes mains. C'était comme une sorte d'aveu de pas pouvoir dire ce qui s'était passé, mais en fait de fabriquer quelque chose pour qu'on regarde mon travail et qu'on comprenne un peu ce que je n'arrive pas à dire. Peut-être les autres vont le comprendre. Voilà, donc il y a eu ce truc-là, en fait, auquel j'ai pensé il n'y a pas très longtemps, parce que je regardais un film de Louis Buñuel, Un chien andalou. Je ne sais pas si tu vois le début du film, mais tu as cet œil de femme très beau qui est comme ça, coupé en deux, avec la lune qui est en superposition, donc c'était super joli. Et sinon, non, il y a eu plein de rencontres par la suite. Quand j'étais plus jeune, j'étais tombée amoureuse d'un garçon dont la maman était peintre et j'avais une vraie fascination pour sa maison, pour son atelier. Je passais énormément de temps avec elle. Voilà, donc c'était des moments comme ça, en fait, un peu suspendus et je sentais que c'était totalement mon endroit, quoi. Trop beaucoup bien. Plus que la campagne, beaucoup plus que les vignes, beaucoup plus que le vin, beaucoup plus que tout le reste, quoi.
Mais ça t'a quand même modelé, sculpté, le vin, la vigne, la campagne, etc. Tu le portes en toi quand même, est-ce que t'as la nostalgie de ça à des moments ou pas du tout?
Pas du tout.
C'est marrant.
Non, pas du tout. J'ai pas, contrairement à beaucoup de copines à moi qui ont grandi dans le sud et qui font leur retour. moi, c'est vraiment c'était pas mon truc, quoi. C'était pas mon truc. J'avais qu'une envie, c'était de me barrer et de fuir tout ça, quoi. Ouais.
D'accord. Donc tu t'es barrée à quel âge?
Donc je me suis barrée à 17 ans. J'ai pris une colocation avec deux copines. On a habité dans le centre d'Avignon.
Okay.
C'était l'année de notre bac. Donc je peux te dire que c'était c'était la teuf et puis de manière surprenante on a eu tout le bac. Et puis ensuite je suis allée à Paris pour poursuivre des études, j'ai fait des études d'histoire de l'art.
Histoire de l'art, d'accord.
Ouais.
OK. Avec quoi comme vision derrière, tu disais je vais faire quoi?
En fait, je pense que j'avais inconsciemment vraiment envie de devenir artiste, de faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait un bac justement option art plastique, donc c'était vraiment quelque chose qui était là, mais je pense que j'avais pas j'avais trop d'estime pour les artistes ou j'avais pas assez confiance, enfin, j'osais vraiment pas passer les beaux-arts, faire des choses comme ça. Donc je me suis dit je vais prendre une voie plus classique, je vais faire l'histoire de l'art, je vais peut-être travailler dans le commerce de l'art. Il y avait cette idée aussi d'être commissaire-priseur que j'aimais bien parce que on est touche à tout, on peut vraiment naviguer, enfin voilà, j'aimais bien aussi ça. Et donc j'ai fait 5 ans d'histoire de l'art, mais j'étais pas très convaincue en fait. Enfin, j'aimais bien l'histoire de l'art, mais je me suis dit je commence ce que je termine, mais en fait a posteriori c'était complètement con, j'aurais dû faire les beaux-arts ou autre chose, un truc plus plastique,
plus rapidement. Très bien. Tu te dis la légitimité à un moment donné, t'as eu quand le déclic de se dire je peux me permettre d'être artiste?
Bon, alors là vraiment je vais te dire, j'ai en face de moi une cinglée, mais en fait c'est mon psy. C'est mon psy. J'avais jamais vu de psychiatre et à 27 ans j'ai consulté quelqu'un, voilà, pour un truc assez précis et à régler. Et puis en fait très vite il m'a dit mais en fait vous répondez à cette question qu'il venait de me poser, vous répondez comme ça parce que vous êtes une artiste, Inès. Et là, il y a eu un blanc. Et je lui ai dit pardon. Il m'a dit bah oui, vous dites ça parce que vous êtes une artiste. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit ah ouais, ok. Ah bah attendez. Ah bah c'est ça en fait. Si lui le dit, si cette figure aussi statutaire en fait que le psychiatre te pose le diagnostic de tu es une artiste, c'est que ça doit être vrai. Et évidemment, on me l'avait déjà dit, on m'avait déjà soumis ça, mais j'y croyais pas. Ouais, je le prenais vraiment par-dessus la jambe, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça. Et en fait, ça a été vachement libérateur de répondre à la question de qui je suis. Et voilà.
D'accord. Et aujourd'hui, ça fait partie de ton identité, je suis artiste. Tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit, je suis...
Je fais de la peinture. De là à le crier au monde et à dire je suis artiste, j'en suis pas encore là.
Mais tu le sauras quand?
Je sais pas, mais je pourrais dire je suis artiste. Je le sens au fond de moi que je suis artiste, mais je sais pas si je peux le crier au monde de cette manière-là. Mais en tout cas, je sais que je fais des trucs artistiques, que je suis mes aventures artistiques.
5 ans d'histoire de l'art. Pendant ces 5 ans, il se passe quoi? T'as d'autres activités à côté?
Ouais, bien sûr. Alors, je fais des stages en parallèle de mes études. Donc, je fais des stages dans le commerce de l'art, dans des galeries d'art. Je deviens assistante aussi de Jérôme Sens. Donc là j'ai une vingtaine d'années, lui est en Chine en train de s'occuper du Ullen Center qui est un musée d'art contemporain. Et donc je fais le relais de Jérôme à Paris.
Comment tu deviens son assistante?
Je deviens son assistante parce que je fais un stage dans une galerie qui s'appelle Enrico Navara. Et ça se passe très bien, c'est un stage qui se reconduit pendant peut-être un an et demi, un truc comme ça. Et j'entends toujours parler de Jérôme Sens. Dès qu'il y a un problème, il faut appeler Jérôme. C'est un peu le mot magique. Ouais. Et en fait, je me dis, toi, on se connaît pas encore, mais t'es la prochaine personne avec qui je vais travailler.
C'est qui Jérôme Sens, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode que j'ai fait avec lui?
Bien sûr, Jérôme Sens, donc c'est le cofondateur du Palais de Tokyo. Et aujourd'hui, il est curateur, il travaille sur plein de projets culturels.
Il est partout, c'est vrai qu'il est...
Ouais, il est partout, ouais.
Et il ouvre beaucoup de portes, j'ai l'impression.
Et donc, je l'ai rencontré comme ça, en prenant un rendez-vous avec lui... En lui racontant vraiment ça. Genre, ouais. On se connaît pas, mais j'aimerais vraiment travailler avec toi parce que je pense que c'est la suite logique, quoi.
Et ça s'est fait.
Et ça s'est fait.
D'accord. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris avec lui?
Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai adoré le regard qu'il avait sur les autres. C'est quelqu'un qui considère vraiment les gens, enfin qui se met à la hauteur de chaque personne. Mmh. Je me suis jamais sentie véritablement stagiaire de Jérôme ou assistante de Jérôme. Mmh. J'avais vraiment toujours l'impression qu'on était sur le même créneau, quoi, quelque part. Et la curiosité, c'est quelqu'un qui va à tous les événements, qui est très ouvert, qui est très dynamique, très positif. C'est quelqu'un de génial.
Ok, donc tu fais ton petit bonhomme de chemin avec lui, à ses côtés, pendant quoi, 6 mois, quelques mois?
Ouais, pendant bien un an et demi aussi.
Ah ouais, quand même.
Et à côté de ça, je commence à mixer, parce que j'ai besoin d'argent. Et en fait, c'est pas du tout un plan de carrière pour moi, c'est vraiment la nécessité de
gagner des sous.
De gagner de l'argent, ouais.
Ouais, mais comment ça te tombe dessus? Tu kiffais la musique quand même?
Ah ouais, bien sûr. Non, mais oui, j'ai toujours adoré. Non, j'ai toujours adoré la musique, c'est arrivé genre tellement jeune la musique, j'ai fait de la guitare pendant des années, j'avais un groupe de rock. Enfin, ça a toujours été là. Mais c'est arrivé que j'avais besoin de travailler et j'ai rencontré un garçon qui était DJ et je lui ai dit je vais sûrement aller travailler dans un bar à côté de mon appart, être serveuse. Et il m'a dit non mais Inès, ça va, t'as deux mains gauches, tu vas pas tenir une semaine, tu devrais plutôt apprendre à mixer et moi je peux te former. Et donc ce garçon m'a appris à jouer et c'est comme ça que je suis devenue DJ.
Ok, comment on apprend à mixer? Si moi demain je veux devenir DJ, comment ça se passe?
Eh ben, c'est super simple. Ça, c'est un peu impressionnant parce que t'as l'impression d'être vraiment dans un vaisseau spatial avec tous ces boutons, mais finalement c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment une question d'entraînement. Il faudrait que tu viennes avec moi, que tu me suives dans un club, et puis je pourrais te montrer un après-midi. On prendrait une heure ou deux pour que je t'explique le
B.A.B.A.
quoi.
Ouais,
voilà.
Trop bien. Et donc ça, c'est devenu en fait un gros morceau de ta vie quand même.
Complètement, le
mix.
Bah c'est ça. En fait, quand j'ai commencé à me lancer dans la vie active, donc j'ai travaillé dans...
Donc là c'est quoi? C'était à peu près...
Donc là, c'était en gros études, stage, / DJ de temps en temps.
Ouais, pour rigoler. Enfin, aussi pour gagner des sous.
Non, pour gagner des sous. Quand je dis de temps en temps, c'était quand même une fois par semaine minimum.
Minimum.
Mais des petits trucs, tu vois, genre dans des restos.
T'as commencé comme ça? Ouais. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on... On développe sa street cred un peu pour dans ce milieu-là. Il faut faire, il faut taper.
Je pense qu'il faut faire plein de choses. Ouais, il faut dire oui, il faut avoir plein d'expériences. Ouais. Faut y aller, quoi.
Gratos un peu au début.
Oh non, non,
non, jamais.
Non, ça faut pas. ça c'est un mauvais conseil.
Ever. Ok.
Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, moi je travaille pas gratuitement.
Facturer très cher.
Voilà. mais au début, évidemment, t'es payé un peu au lance-pierre, hein. Mais tu commences par des petits gigs. Donc dans des restos où les gens n'ont un peu rien à foutre. Mais c'est pas grave, tu fais tes armes, t'apprends et c'est comme ça que tu te perfectionnes. Et puis après, généralement, si ça se passe bien, t'es repéré. Et moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. J'ai été repéré et puis j'ai commencé à mixer au Baron. Et au Baron, c'était un peu la boîte du moment, quoi.
C'était
la belle époque. Et puis voilà, de fil en aiguille, après, t'es repéré par des marques qui font des soirées, qui veulent que ce soit toi qui mixe à l'after show. Tu rencontres des gens et bon, ça fait un peu effet boule de neige, quoi.
Trop bien.
Mais bon, entre ça et ça, il se passe quand même quelques années, quoi, tu vois.
Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un gros morceau de ton activité, quand même, non?
Ouais, complètement. Complètement, ouais.
Et là, tu mixes toujours une fois par semaine, deux fois, trois fois, plus?
Non, alors non. En fait, il y a quelques années, je dirais 5 ans environ, je me suis vraiment dit que j'allais me concentrer sur, comme je te disais, mes aventures plus artistiques et plus plastiques. Et donc, j'ai arrêté tout ce qui était résidence dans des clubs. Je continue à mixer pour des marques et pour des belles maisons. Mais je dirais que c'est à raison d'une à deux fois par mois. Bon, là, il y avait la Fashion Week la semaine dernière, donc j'ai mixé énormément, quasiment tous les soirs. Mais c'est rare. C'est rare. Ouais.
Qu'est-ce qui fait un bon DJ qu'est-ce qui fait un bon DJ et comment? Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup. C'est marrant. Et moi, j'ai beaucoup de gens que j'interview ou que j'ai envie d'interviewer qui viennent soit du monde du skate, soit du mix. À un moment donné, ils ont été DJ. Et ça donne un pouvoir assez fort, le DJisme. Je sais pas comment on dit.
DJing.
Le DJing.
Mais on peut dire DJisme, hein, si tu veux. C'est pas mal.
Le DJing. J'ai l'impression que ça te donne quand même un super pouvoir sur comprendre la vibe, sentir les gens, avoir beaucoup d'empathie sur, pour pouvoir lancer la chanson suivante. J'ai dit une bêtise ou pas?
Non, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, en fait. C'est un... Il me semble. En tout cas, moi, les DJ que j'aime bien versus ceux à qui je suis moins dans le truc, c'est des gens qui sont hyper sensibles avec ce qui se passe en face d'eux et qui arrivent à s'adapter et à comprendre. S'adapter, ça veut pas dire d'un coup mettre des énormes tubes pourris parce que forcément, il y a trois personnes qui veulent ça. C'est pas forcément céder, mais c'est quand même accompagner. Et plutôt que d'être dans un tunnel et avoir son histoire écrite en tête et vouloir absolument passer tel morceau après tel morceau après tel morceau après tel morceau, tu vois, c'est un truc assez je sais pas, assez triste.
Il faut être à l'écoute.
Je pense qu'il faut être à l'écoute et il faut pas avoir peur aussi d'être libre et donc d'improviser et de s'adapter comme ça, quoi.
Tu parlais tout à l'heure de résidence. C'est quoi une résidence?
C'est-à-dire de résidence.
Non, c'était résidence que t'as dit ou...
Ah oui, résidence dans des clubs.
Dans les clubs, ouais.
Oui, bah c'est marrant. J'ai l'impression que c'est une notion où les gens comprennent pas trop ce que c'est qu'être résident dans un club. En fait, c'est juste venir régulièrement dans le même club et mixer une à deux fois par semaine dans le même club. D'accord. En fait.
T'étais dans quel club? T'étais au Baron.
Donc j'étais au Baron. Ensuite, j'ai été au Silencio, au tout début du Silencio pendant 3 ans. Et ensuite au Bain.
Ouais.
Et voilà.
Ok.
C'était déjà pas mal.
Bah ouais. Et donc ça a duré combien de temps? Juste pour revenir sur les milestones. Comme j'aime
en
bien
fait,
poser.
Ça a duré jusqu'à, je dirais, 5 ans. Il y a 5 ans.
Jusqu'à il y a 5 ans. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça a duré une petite dizaine d'années,
ouais,
grosso modo.
Une petite dizaine d'années.
Parce que t'as quel âge aujourd'hui?
Je vais avoir 34 ans, tu vois, le 1er avril.
D'accord, ok.
Ouais.
Et ton activité, tu faisais ça full time? Parce qu'en fait, au moment où tu quittes Jérôme Sens, tu fais du DJing. Et...
Donc là, non, là, je me dis, bon, il faut que je trouve un travail. Et donc, j'ai une copine qui me dit qu'elle cherche quelqu'un dans la prod parce qu'elle veut monter une section photo au sein d'une grosse boîte de production. Okay. Et je lui dis, bah, génial, je te suis. On y va, on le fait ensemble. Sauf qu'en fait, au bout de 6 mois, elle fait un burn-out, elle se barre et elle part, je sais plus, sur une île, un truc de dingue. Donc, elle veut plus jamais rentrer, quoi. Et moi, je me retrouve à 23 ans, productrice dans une très grosse boîte de prod. Et je me dis, mais j'ai jamais fait ça, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je vais jamais y arriver, en fait. Et puis surtout, je me tape toutes les productions qu'elle a pas terminées, elle. Et voilà, je dois arriver en cours de route et gérer ça, quoi. Et en fait, bah ça a pas marché, quoi. Ça a pas marché. La greffe n'a pas prise. Ouais. Je me suis vraiment sentie genre rejetée par le monde du travail, entre guillemets. Non, mais j'avais pas les épaules assez solides. J'étais trop jeune et voilà. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter que c'était pas exactement ce que je voulais faire, puisque moi je venais vraiment du monde de l'art. Donc j'avais saisi cette opportunité comme un truc qui pouvait être intéressant, mais intéressant parce que c'était avec cette fille là et puis en fait de me retrouver toute seule et de devoir tout décoder, tout déchiffrer, tout apprendre sur le tas d'un métier qui finalement m'avait jamais fait rêver, voilà, c'était pas pour moi. Et c'est à ce moment là que je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, tu prends un an pour faire de la musique et tu vois si ça marche et si tu peux subvenir à tes besoins comme ça et s'il y a des choses à faire. Et donc c'est ce que j'ai fait, et en fait ça a pas duré un an, ça a duré presque une dizaine d'années, parce que j'ai fait ça à fond.
D'accord. Et tu fais ça full time.
Full time, full time.
Et alors, comment, explique-nous une carrière de DJ. Comment est-ce qu'on l'a construit? Comment est-ce que ça, tu te faisais épauler? T'avais des, t'avais un agent?
Ah oui, j'ai eu un agent, bien sûr, évidemment. Je sais pas, j'avais jamais eu vraiment de vision, sur
de stratégie
ou de choses comme ça. D'autant plus que moi, j'ai jamais voulu faire de production vraiment à proprement parler. Et donc, je pense que quand tu veux évoluer à un autre cap en tant que DJ, il y a un moment où il faut que tu produises, donc tu passes par l'étape studio. J'en ai fait un peu de studio, mais c'était pas mon truc. Donc voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de passer des disques, de passer des bons moments, de voir jusqu'où je pouvais aller avec cette histoire-là, de voyager,
Et voilà. Ça t'a fait voyager dans
Et ça m'a fait beaucoup voyager. Ça m'a fait beaucoup voyager, mais c'est vrai qu'à un moment, je suis arrivée un peu, j'ai eu l'impression d'arriver un peu au bout du truc et que, voilà, je me disais, mais qu'est-ce que je retiens de tout ça, en fait?
Qu'est-ce que tu retiens de tout ça?
Ben justement, je retiens que c'est le moment où je me suis dit, bah, je vais faire des, comme je voyageais beaucoup, j'avais un peu la frustration aussi de, d'arriver dans des pays extraordinaires, mais bon, déjà, t'es souvent seul. Donc, tu te poses aussi la question de, voilà, des souvenirs que tu passes, est-ce que ça s'est vraiment passé, puisque t'es le seul témoin, en fait, de ce que t'as vu. Et comment tu retiens quelque chose de ces voyages? Et j'ai commencé à faire des captures sonores. Donc, j'ai fait plein de petites capsules, de sons. Parfois super intéressant et parfois complètement anodin. Et puis j'en ai fait une bibliothèque sonore de tous ces sons collectés et ça j'en ai fait un Instagram que j'ai appelé le brouhaha. Et donc tu cliques sur une vignette et là d'un coup boum, t'es transposé dans le son d'une rue. J'ai une copine qui m'avait envoyé le son des cigales japonaises, donc des, tu vois, des petits trucs comme ça un peu anodins mais hyper beaux. Voilà. Et là, je me suis dit, ah, je tiens peut-être quelque chose avec ça, dans le sens où je me suis remémoré que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire, quoi. J'avais envie de faire quelque chose de plus artistique.
Plus artistique, ok. Donc, en fait, c'est ta première œuvre un peu, ou c'est ton premier travail, ta première recherche, quoi.
Bah voilà, comme je te disais, j'ai fait de la peinture, je sais pas si je t'ai dit ça, mais j'ai fait de la peinture voilà, toute mon enfance et toute ma jeunesse, j'ai suivi des cours de peinture, ça a toujours été là. Mais en effet, en arrivant à Paris, en mixant, en ayant plein d'expériences professionnelles, c'était vraiment quelque chose que j'avais mis de côté.
Bien sûr.
Et puis ça ouais, le brouhaha, ça a été un des déclics, ouais.
Une reconnexion.
Ouais, une reconnexion à ça.
Trop bien. Et après, alors, il se passait quoi?
Et après, bah, j'avais comme ouvert la boîte de Pandore et je me suis remise à faire de la peinture et puis à montrer des choses de manière super, je sais pas, super légère, quoi, sur Instagram. Et en fait, j'ai senti que mes amis réagissaient et que c'était plutôt agréable.
D'accord.
De, voilà.
Très bien.
De provoquer quelque chose.
Comment est-ce qu'on architecture tout ça? Parce que j'ai le sentiment que quand on est artiste, il y a ce... C'est comment est-ce qu'on trouve son médium, tu vois? Tu parles de peinture, puis après tu parles de son. Comment est-ce qu'on architecture son travail pour lui donner sens? Enfin, et quel était l'objectif finalement de tout ça? Comment est-ce que tu vas... Est-ce que tu as pensé à une carrière à un moment donné? Est-ce que tu as comment tu as structuré tout ça? Et comment tu as un peu comme dans quand tu es DJ tu acquiers une espèce de street cred, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire OK, bah il faut que je structure un petit peu tout ça pour que ça ressemble à quelque chose, pour qu'il y ait une certaine cohérence, pour que les gens qui doivent m'approuver, m'approuvent, trouvent qu'il y a du fond, qu'il y a quelque chose dans mon travail. Je te pose beaucoup de questions hein, en même temps.
Mais, ouais, je comprends.
Que tu comprends l'idée.
Ouais, complètement. Mais je pense que c'est en faisant, c'est en testant, c'est en essayant, c'est en fabriquant, c'est en faisant plein de trucs. Finalement, après, tu regardes et il y a des choses qui ressortent et tu te dis « Ah tiens, bah, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. » Mais pour faire ça, il faut déjà expérimenter, tâtonner. Tu vois, ça prend du temps, quoi.
Bien sûr, ouais.
Mais c'est vrai que pour moi, ce qui a été super déterminant, c'est, comme beaucoup de personnes, je pense, c'est le confinement. Parce qu'il y a eu ce moment de break où, en effet, moi, je pouvais plus mixer. Ça, les clubs, la nuit, c'était terminé. Et je me suis dit, ah bah génial, je vais avoir que ça à faire de peindre. Et en fait, j'ai eu vachement de mal à installer, entre guillemets, mon atelier à la maison. J'ai mis une dizaine de jours alors que vraiment, on n'avait que ça à faire, quoi. Et j'y arrivais pas, je repoussais, je me disais alors que bon, voilà. Et puis tous mes copains et mes amis me disaient, mais c'est génial parce que vous, les artistes, vous allez vraiment avoir ce temps pour créer. Donc il y avait comme une sorte d'injonction à la création qui était finalement assez lourde et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais moi besoin d'être vraiment légère pour pouvoir faire et j'arrivais pas à faire ce qui était attendu de moi. Donc la peinture ça a pas marché. En revanche, j'ai eu un déclic en faisant la vaisselle Je faisais la vaisselle avant, hein, mais là, d'un coup, ça a pris un autre sens. Et j'ai trouvé que la vaisselle était vachement belle et que je pouvais m'autoriser à faire des sculptures avec la vaisselle. Et j'en ai fait des petites vidéos, des photos. Et pareil, je les ai partagées sur Instagram. Mmh. Et j'ai senti que ça faisait marrer les gens. Mmh. Et qu'à partir du moment où tu provoquais le rire, bah forcément, t'as envie de continuer, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai vraiment exploré tout mon appartement et voir tout ce qui était possible de faire avec les objets du quotidien, des choses qui sont pas faites pour faire de l'art. Mmh. Et notamment les fromages. Mmh. Donc, je sais pas si t'avais vu ça, mais j'avais fait des sculptures de fromage.
C'était percutant, c'était fort. Mmh.
Merci. ça part vraiment de... Enfin ouais, c'est un peu cette notion du sérieux ou d'arrêt dont parle Montesquieu, de faire les choses sérieusement, mais en s'amusant, quoi. Mmh. Donc quand j'ai vu ces fromages dans mon frigo, je me suis dit, bah tiens, c'est vraiment une matière qui est totalement inexploitée dans l'histoire de l'art.
Mmh. Vraiment, ça n'a jamais été exploité.
Là, je dis ça avec beaucoup de second degré. Hein. Ouais. Je sais pas, il faudrait que je... Je sais pas, j'ai pas vu beaucoup... Enfin, non, il y a quelques artistes, mais bon, ça reste vraiment... Non, c'est très, très rare. Mmh. Et en fait, ouais, j'ai vu ces pâtes dures et ces chèvres, et je me disais, c'est trop beau, on dirait de la céramique... Et comme j'ai pas de four, bah tiens, je peux peut-être faire des sculptures qui ressemblent à de la céramique, mais en fait c'est du fromage. Et en tant que française, bah c'est quand même marrant. Il y a quelque chose à dérouler sur ça, quoi. Et en fait, donc j'ai commencé à faire ces sculptures, et puis après j'ai eu envie de faire une expo avec ça, mais c'était pendant le confinement, donc on avait pas le droit de dépasser le périmètre d'un kilomètre. Et je me suis dit, ah mais c'est trop bien, je vais le faire dans une fromagerie.
Bah oui.
Donc je vais aller voir mon fromager, je vais lui expliquer mon histoire, et puis il va trouver ça génial, et puis on va faire un vernissage, et puis tous les voisins viendront et tout. Et bon, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce
il a pas kiffé.
Enfin, il m'a dit, c'est très drôle, mais non. non, c'est pas possible, les gens vont pas comprendre. Donc je me suis pris une bâche quand même par mon fromager, quand même, ce qui est assez dur. Et en fait, j'ai rebondi en me disant, bah c'est pas grave, il faut que je crée vraiment des objets en fait qui soient plus voilà qui soient consistants et que je pourrais montrer. Donc j'ai eu l'idée de faire ces bougeoirs céramiques en forme de fromage, et j'ai fait ça avec une céramiste, Alma Barrow, à Londres. Et donc on s'est écrit pendant le confinement, pendant un moment, pour élaborer ce projet. Et suite à ça, donc le Covid s'est terminé, j'ai montré ces pièces chez Yvon Lambert à Paris, et c'était un peu le début de OK, je crois que j'ai mis le pied dedans.
C'était une exposition chez Yvon Lambert.
Oui, alors exposition, c'est un grand mot, parce que en fait l'espace d'exposition, il est derrière la librairie, mais il y avait deux grandes vitrines dans la librairie, donc j'avais les bougeoirs fromage, les cannelle cheese qui étaient exposés, plus une grande photo de sculpture de fromage.
Très bien.
Et voilà.
Comment tu ouvres la porte de Yvon Lambert?
Bah, j'ouvre la porte parce que déjà Yvon Lambert, y a la collection Lambert à Avignon. Pour moi, ça a été un endroit très important, parce que dans le sud de la France, là d'où je viens, il n'y avait pas énormément d'ouverture sur l'art contemporain. Et la collection Lambert, c'est un endroit où j'allais beaucoup. Et je me sentais... En fait, je trouvais qu'il y avait une proximité avec l'art contemporain et que c'était vraiment facile de comprendre et qu'on n'était pas mis à l'écart. Et donc, j'ai toujours adoré cet endroit. Donc, ça fait vraiment partie de moi, en quelque sorte, de mon histoire. Et donc, c'est pour moi, Yvon Lambert, c'est une personne qui est très importante et voilà.
Tu l'as rencontré?
Oui, bien sûr, je l'ai rencontré et je lui ai dit ça, à quel point ça avait été déterminant d'avoir la collection Lambert, et je l'ai remercié, parce que je pense que je suis pas la seule, hein, ça a dû dessiller les yeux de pas mal d'ados. Et bref, et en fait, quand il y a eu ces sculptures de fromage, je me suis dit, allez, j'envoie un message sur Instagram. Voilà.
Banzai.
J'y vais. Et en fait, j'ai envoyé un message, mais très super léger. J'ai juste dit, je suis en train de faire ça en ce moment. Je pensais à vous. Si ça vous fait marrer, on le fait ensemble. Et Bruno m'a répondu, qui travaille à la librairie. Il m'a dit, on adore, tu passes et voilà.
Et comment ça a été reçu?
Ça a été plutôt bien reçu.
Ouais.
Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris, mais ça, à la limite, c'est comme ça. Mais sinon, non, ça a été bien compris par les personnes avec qui j'avais envie. J'arrive pas à faire cette phrase. Sinon, ça a été plutôt bien reçu, ouais. Plutôt bien perçu. Et notamment, ensuite, j'ai fait un livre avec des éditeurs, donc, qui s'appelle RVB Books. Et je sais qu'ils avaient été sensibles en passant chez, chez Yvon Lambert, quand on s'est revus, quand on a fait un rendez-vous ensemble. Mmh. Ils m'ont dit, ouais, on a compris que c'était un geste. Voilà, on a compris ce que tu voulais dire.
Et qu'est-ce que tu voulais dire?
Bonne question. Non, mais à toi de me dire. je veux pas dire qu'une chose, je veux dire plein de choses. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que les autres
ressentent.
Ouais, ressentent. Mmh.
Mais ça pose la question du rôle de l'art, de qu'est-ce que l'art.
Bien sûr.
Est-ce que c'est un objet de design ou est-ce que c'est de l'art?
Ça m'intéresse aussi d'être à la croisée des chemins et de proposer des objets, mais qui sont aussi collectibles et qui sont pas que des objets d'art, mais qui peuvent aussi avoir une fonction, même si en fait tu vas peut-être pas l'utiliser, mais qui est cette potentialité. Moi, j'aime bien ça. Mais en réalité, c'était un cri. Enfin, c'était une façon de reprendre le contrôle sur le monde. Moi, j'avais une vie qui était très domestique à l'époque. Et c'était...
domestique.
C'était...
Bah oui, parce que t'étais en confinement, quoi.
J'étais en confinement et dans tous les sens du terme.
Ouais.
Et voilà, et c'était aussi ouais, une manière de reprendre le contrôle sur mon quotidien et de dire j'existe.
Trop bien.
Avec du fromage.
Avec du fromage. Mais c'est beau. Enfin, moi, j'avais été touché, en tout cas, par ça. C'est assez fou aussi que rapidement, tu fasses un livre avec ces mêmes objets. Mm-hmm. Ça s'est déclenché grâce à ça, en fait. Un projet, on appelle un autre, en fait.
Oui, oui, oui. Bon, encore une fois, c'est moi qui ai pris les rênes parce que j'ai demandé à Bruno, je lui ai dit que j'avais une idée de livre, mais je ne savais pas avec qui le faire. Et Bruno m'a conseillé deux maisons d'édition. Et j'ai écrit aux deux, dont RVB Books, et on a pris rendez-vous, et voilà, et je leur ai expliqué ce que je fabriquais en ce moment, et je pense qu'ils, ouais, ça les a fait marrer, ça les a touchés, ils m'ont dit, ok, on va faire un truc, on sait pas quand, mais voilà, en tout cas, c'est dans notre tête. Et puis, on était partis sur l'idée d'un livre avec des sculptures donc faites dans l'enceinte de l'appartement, donc de sculptures assez modestes, et puis, en définitive, un soir... je sais plus, je suis partie dans un trip où j'ai commencé à scanner des fromages. Et en fait, j'adorais je sais pas, les matières et les couleurs et le fait que, en fait, la forme s'abstractisait totalement et qu'on était vraiment dans autre chose. Et j'ai dû leur envoyer un mail, genre à 2h du mat. Voilà ma série de photos. Ha ha ha. Regardez, c'est du fromage scanné. Mais bon, je me suis dit, ça va les faire marrer, mais stop, quoi, il y aura pas. Et en fait, c'est la série qu'ils ont aimée. Ils ont dit, non, mais en fait, on fait ça. Le premier livre, ça va être ça. Trop Parce bien. Qu'il y avait quelque chose de très graphique aussi, je pense, qui était dans leur ADN, pardon.
Très bien. Le processus pour fabriquer un livre, une fois que tu as cette idée, ce premier jet, c'est quoi le processus créatif autour d'un livre?
Bah, je pourrais pas vraiment répondre à cette question parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'être arrivée avec un projet et après, j'ai dit, bah, voilà, les gars, débrouillez-vous.
Ah ouais,
okay. Ouais, j'avais une confiance aveugle, en fait, et je pense que j'avais pas du tout d'idée préconçue sur quel allait être l'objet, en fait, in fine. Donc, je pourrais pas te dire.
T'as fait confiance.
Ouais,
j'ai fait livré un truc et ils en ont livré un autre, quoi.
Enfin, oui, voilà.
Mais tout en respectant ton travail.
Ah, complètement. Mais après, je savais avec qui je travaillais. Je savais que c'était les meilleurs. Donc,
c'est les meilleurs.
Enfin, ils font partie des meilleurs. Ouais. Ouais.
Très bien. C'est quoi le projet suivant qui t'a permis de continuer? Parce que je trouve qu'il y a un côté un peu... finalement, c'est un peu comme un premier album, une première exposition comme ça. Il faut se renouveler, il faut se dire, ok, bon... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il faut écrire le deuxième album ou il faut faire des expositions, etc.
Ouais, je pense que j'en suis pas à l'album, j'en suis plutôt au single, mais...
Deuxième single. Alors.
Voilà, plutôt deuxième single.
Comment est-ce qu'on se renouvelle? Ça pose cette question de dire comment je trace le sillon tout en me renouvelant, en restant, en construisant un truc, quoi. Parce que finalement, ton œuvre globale, c'est un petit morceau de ton œuvre globale et c'est comment est-ce que je vais architecturer toute cette œuvre.
Ah, ça t'intéresse, hein, l'architecture.
Non, mais ce que j'aime bien dans ce genre de questions, c'est que finalement, que tu aies une marque de mode, que tu sois artiste ou que tu. Ou quoi que tu fasses, en fait, il y a quand même cette notion de renouvellement en permanence, quoi.
Ouais, mais moi, j'ai pas l'impression vraiment de me renouveler. J'ai l'impression que je fais la même chose avec des médiums différents et que c'est une idée qui appelle voilà, un médium. Donc la suite de ça, c'est vrai que après quand t'as commencé à trouver un contexte qui est fertile. Mmh. T'as envie de continuer à creuser le sillon.
Bien sûr.
Donc, si tu veux, ce truc des objets domestiques, c'était tellement fertile. Il y avait tellement de choses à faire et tellement de choses à raconter avec ça que c'est des possibilités qui sont presque infinies. Mmh. Et je me suis intéressée assez rapidement à l'objet livre. Mmh. Et en fait, ma première vraie expo qui était mon solo show, c'était il y a un an et demi maintenant. Qui était à la galerie 75 Faubourg, c'était justement sur le livre, sur la littérature, donc qui est aussi un objet de notre quotidien, mais voilà, que j'ai décidé de traiter, de maltraiter. Voilà.
Raconte-nous cette histoire, comment ça s'est passé concrètement, comment t'as réussi à rentrer dans cette galerie? Il me semble que c'était curaté par Jérôme, non?
Ouais, bien sûr.
Tu t'es entouré quand même des meilleurs dès le départ. Hein,
t'as vu, j'ai eu du flair. Hein.
Grave.
J'ai eu du flair. Non, mais enfin, déjà, le premier déclic, il est venu parce que je me baladais dans la rue et j'ai vu des livres abandonnés que j'ai trouvé super beaux, enfin trop beaux en tout cas pour être jetés à la poubelle. Donc, je les ai rapportés dans mon appartement. Et comme je suis très sentimentale, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Et j'ai décidé de les creuser et d'en faire des boîtes à mouchoirs. Mmh. En fait, tous les titres étaient assez beaux, assez dramatiques, assez tragiques. Et donc, il y avait ce livre, tu vois, creusé, qui devenait donc un objet comme une boîte à mouchoirs, mais avec un tissu, enfin un mouchoir qui était brodé. Donc, une phrase du livre qui avait été enlevée apparaissait sur le mouchoir en broderie d'une écriture un peu tremblante. Mmh. Et ces petits objets-là, pareil, je les ai proposés chez Yvon Lambert et donc j'ai fait une petite présentation. Et forte de ce premier instinct, entre guillemets, je me suis dit, ah ben, il y a plein de trucs à faire sur le livre. Et en fait, on peut s'autoriser à utiliser le livre comme une matière. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie d'utiliser le livre comme une matière et de poser la question, est-ce que le livre est une matière comme une autre? Est-ce qu'on peut fabriquer avec le livre? Est-ce qu'on a le droit de le percer? Est-ce qu'on a le droit de le découper? Qu'est-ce que ça laisse comme trace? Quel stigmate? Est-ce que moi, j'ai le droit de faire ça? Qu'est-ce que ça va provoquer dans ma vie? Qu'est-ce que je raconte et tout? Et donc, est venue l'idée de faire une exposition. L'idée est venue de faire des grandes peintures, c'était surtout ça. Mmh. J'ai fait des grandes peintures avec un livre que j'avais choisi, qui s'appelle La prisonnière. C'est donc le cinquième volet de la recherche de Proust. Et pareil, c'était un livre qui m'intéressait dans l'idée aussi de cette héroïne qui est confinée dans son appartement. C'est aussi un roman quelque part sur le confinement. Et j'avais une fascination pour Albertine, pour son mutisme, pour le fait que ce soit un personnage qui nous échappe totalement, qui échappe totalement au narrateur, qui est dans une sorte de présence d'absence. Et je trouvais que c'était pas mal de fabriquer quelque chose aussi avec un auteur comme Proust, qui est un peu un hérisson, parce que personne... très peu d'artistes osent attaquer Proust parce que ça fait peur et c'est soi-disant un télo, etc. Et donc, j'ai fait ces grandes peintures de livres. Donc, il faut que tu imagines que tout le livre, il est découpé, il est marouflé sur toile, donc page à page, les pages sont coupées et tu peux lire, idéalement, genre dans toute l'exposition, tout le bouquin, tu retrouverais tout le bouquin. Okay. Et sur ces pages de livres, tu as de la peinture qui... comme des sortes de grandes formes à la peinture à l'huile qui apparaissent sur les pages. Et en fait, c'est en montrant ces peintures à Jérôme. Jérôme, il est toujours resté dans mon périmètre, quoi, même si on s'appelle pas tous les jours, mais il était toujours là, un peu derrière. Et Jérôme m'a dit, il faut que tu fasses une expo, quoi. Enfin, continue, produis entre 10 et 15 peintures. Tu vois, je devais en avoir fait 5 ou 6, quoi. Continue, et puis on les montrera à Doriano et on verra ce qu'il en pense. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, l'expo est arrivée, donc j'ai présenté ces peintures-là, et aussi des sculptures autour du livre, donc des grandes colonnes de livres.
Les colonnes sont arrivées à ce moment-là?
Ouais.
Les totems?
Oui. Alors moi, j'appelle pas ça des totems.
Pardon.
Non, c'est pas grave. Non. Ouais. Non, c'est vrai que c'est juste qu'il y a ce truc de... C'est pas vraiment l'idée de totémiser ou de fétichiser le livre. Au contraire, c'est plutôt l'idée d'utiliser le livre comme une matière et donc de fabriquer des constructions un peu comme un enfant, tu vois, jouerait avec des caplas et tu construis, tu peux détruire. Tu vois, c'est pas sacré, quoi. Mmh. C'est pour moi, le livre est pas une chapelle et pour moi, il faut s'autoriser à faire, et même avec le livre. Mmh. Et mais bref, donc j'appelle ça les. Enfin, je dis que c'est des colonnes de livres, mais enfin, si tu veux dire des totems, ça me va très bien. En fait, je m'en fous. Et le titre, c'est Infinite Poem. Donc voilà, donc c'est ces grandes des grandes colonnes. Et donc ouais, c'était là déjà.
Ouais. Mmh. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait donc les boîtes à mouchoirs.
Les boîtes à mouchoirs, je les ai pas montrées parce que ça, j'avais déjà montré chez Yvon. Donc il y avait les colonnes de livres, il y avait les grandes peintures, mmh. et il y avait aussi des ce que j'appelle des sculptures de livres, mais donc c'était des livres au sol avec des phrases écrites en rouge. Donc il y avait une sculpture, c'était juste des livres ouverts posés au sol, mmh. qui forment un grand cercle, et sur le cercle, sur le livre, il y avait marqué vous faire tourner la tête. Et en fait, quand tu regardais donc la sculpture au sol penchée, t'étais obligé, tu vois, de lire, donc de tourner ta tête. Enfin bref, des trucs comme ça, quoi.
D'accord. Et là, succès retentissant.
Là, énorme succès. non, ça s'est bien passé. Bah, c'est toujours, c'est super bizarre. Hein. C'est super bizarre les expos.
Non, mais ça te met en tout cas sur la carte du monde de l'art. Enfin, en tout cas, quand t'as la validation de Jérôme,
merci,
dans une
ouais.
galerie, etc. Mmh. Ça te t'es validé par le système.
C'est vrai. Mmh. C'est vrai que ça m'a mis un tampon.
Ça a crédibilisé.
Ouais, qui a un peu crédibilisé, ouais, complètement. Mmh. Ouais. Mmh.
Sold out?
Je pourrais te dire que oui, mais non. non, ça n'a pas été sold out, mais on a très bien vendu. Ouais. C'est que ça a été quasiment sold out.
Trop bien.
Toutes les sculptures sont parties, il me reste quelques peintures, mais.
Fait quoi alors de voir partir ces.
Oh, ça fait mal au cœur. Ah ouais. Ah ouais, moi, j'ai l'impression que ça m'arrache un bout de mon cœur.
Ah ouais.
Ouais, vraiment. Okay. Ouais. Je suis très attachée.
Tu
mets
tellement de toi dedans que.
Ouais, mais alors c'est bizarre parce que je m'en rends pas compte, mais c'est au moment où c'est vendu, je me dis, ah, déjà j'ai envie de savoir qui achète, où ça va, est-ce que, voilà. Ouais, c'est un truc. Mm.
Et aussi, ceux qui achètent, c'est important, non? Il y a une dimension, enfin, dans le monde de l'art, ça rentre dans quelle collection? C'est qui
bien
l'a
sûr.
Acheté, etc.
Ouais, évidemment. Ouais.
Et c'est rentré dans les bonnes collections?
Ouais, complètement, ouais.
Génial.
Non, c'est super. Non, vraiment, je pense que tout le monde était surpris et content de, moi, la première. Du succès de l'expo, surtout en parlant d'un sujet qui était un peu niche, quoi, tu vois, de littérature, de Proust.
Et tu les as lus, ces livres, d'ailleurs?
Alors, j'ai pas lu tout Proust, okay. Mais voilà, je suis rentrée par une petite porte, qui est Un amour de Swann, qui est un livre qui m'a bouleversée, je sais pas si tu l'as lu.
Ouais, il est pas très long, il me semble,
ouais.
et c'est un des plus accessibles.
Ouais, c'est un des plus accessibles.
C'est un qu'on doit étudier au lycée ou au collège, un truc comme ça.
Peut-être, enfin, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé, et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée.
Génial. Qu'est-ce qui se passe après, alors? Après un truc comme ça, parce que ça, là, pour le coup, t'es... C'est un premier single ou un premier album qui a bien fonctionné. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on relance la machine? J'aime bien dire on remet une pièce dans le jukebox pour continuer à danser.
Bah après, déjà, tu as une sorte de dépression, pas une dépression psychologique, machin, mais t'as, voilà, le soufflet retombe. Donc, tu es un peu là, genre, ok, bon, donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et puis tu n'es pas sûr d'être à nouveau inspiré. Et en fait, ça revient. Et ça repart. Et donc là, à ce moment-là, j'ai loué un atelier à Asnières, à la Syrah. Ouais. Et je me suis lancée sur un autre projet. En fait, pendant l'exposition, j'ai commencé à faire du graffiti. Tu te l'as fait le pas dans tous les sens.
Non.
J'ai commencé à faire du graffiti parce que je pouvais pas vraiment me lancer dans un vrai gros projet installé. Et en même temps, je pouvais pas rien faire. Et j'avais fait tellement de peinture et c'était un travail qui était tellement minutieux de collage, etc. Je pense que j'avais un peu saturé et je voulais un truc juste très léger et très spontané. Mmh. Et donc c'est comme ça que je me suis mise à faire du graffiti.
Ton atelier?
Non, dans le métro.
Dans le métro, oui.
Ouais.
Donc là, t'es vraiment une vandale, quoi. Enfin, c'est vraiment toi qui fais les graffitis dans le métro?
Bah, je sais pas comment je dois répondre à cette question si jamais ça...
La RATP, tu vas être...
Voilà, si jamais ça, c'est retenu contre moi, donc je répondrai pas à cette question. Mais disons que j'ai eu un jour un déclic en sortant de la station Ligne 9 à Grand Boulevard ou Strasbourg-Saint-Denis, je crois que c'était. Il y avait 5 grands panneaux d'affiches lacérées qui se succédaient, qui étaient magnifiques. Et bon, évidemment, qui évoquent Mimmo Rotella, Raymond Haynes, enfin tous les affichistes. Et j'ai fait une story en disant « Très belle expo, Ligne 9 », tu vois, en marrant, quoi. Et en fait, le soir, j'étais un peu obsédée par ces panneaux et je me suis dit « Il faut absolument que je fasse quelque chose ». Donc j'ai acheté un pot de peinture blanche et je suis allée écrire une phrase sur les panneaux, une très grande phrase. Et donc j'ai écrit « Did you get home safe ?» Voilà. Et ça, c'était un peu mon premier fait d'armes. Et ensuite, j'ai continué à faire plein d'interventions comme ça, en fait. Mmh. Ouais.
Trop bien. Et donc là, tu prends ton... Enfin, tu vas pas me dire, mais, ouais. Mais c'est tu t'es jamais fait choper.
Alors, c'est assez drôle parce que généralement, les gens s'arrêtent. Ils sont assez surpris. Mais
voir une petite blonde faire ça, ouais.
Voilà, ouais, ils sont assez sur. Ouais, vraiment, c'est un délit de faciès, c'est abusé, quoi. Ouais. Mais non, les gens s'arrêtent, ils sont surpris. Il y a même des gens qui me donnent des conseils de peinture. Il y a un vieux monsieur qui s'est arrêté qui m'a dit, il faut étirer le trait.
Génial, voilà. Incroyable.
Et non, les gens, ça les fait plutôt marrer. Et puis une fois, il y a un gars de la RATP qui est passé. Disons que je suis un peu dans une niche parce que c'est pas totalement vandale dans le sens où.
C'est sur le papier.
Comme c'est sur du papier d'affiche qui est déjà lacéré et abîmé, t'as pas de publicité et c'est pas non plus, j'abîme pas non plus, genre vraiment les murs ou quoi que ce soit, tu vois. Donc il y a un peu ce truc là où je pense que c'est un peu un espace de tolérance. Mais bon, je veux pas trop non plus, voilà, crier victoire. Et donc, ouais, il y a un jour un mec de la RATP qui a vu et j'en avais plein les chaussures, je savais plus quoi dire. J'ai fait un vieux mytho et il a été sympa. Il m'a dit, allez, j'ai rien vu.
Ok, ouais. Hyper intéressant.
Ouais.
Et ça, ce travail, donc tu l'archives en prenant des photos quand même. Parce qu'à un moment donné, il y a ce côté très éphémère, ça peut pas rentrer en galerie. Enfin, tu peux pas le
justement,
le vendre, etc. C'est la performance, quoi.
Ouais, complètement. Oui, je l'archive. D'ailleurs, faudrait que j'archive un peu mieux, mais oui, je prends des photos avec mon iPhone. Et puis en fait, ça m'a donné le là pour la suite, parce que j'ai commencé à collecter donc plein d'affiches lacérées.
Que
je suis allée chercher dans le métro, que j'ai récupéré. Donc soit tu vois quand les mecs là qui collent les affiches, je sais pas si on dit des affichistes d'ailleurs. Généralement ils enlèvent en fait la couche, tu vois, juste antérieure. Donc ça je récupère ça. Je récupère aussi des affiches qui sont abîmées et j'ai fait toute une sorte de collection de d'affiches lacérées dans mon atelier. Et je me suis dit je vais faire des grands formats. Pareil dans cette veine Villeglay, Raymond Haynes, tu vois un peu 60s, de grands panneaux comme ça avec des affiches et je pourrais faire de la peinture dessus et raconter en fait en atelier ce que je fais aussi dans le métro et donc avoir autre chose, quoi.
Trop bien. Mm-hmm. Donc là, c'est ton travail actuel.
Donc là, c'est ce que je fais en ce moment.
Ok.
Là, c'est ce que je fais en ce moment, ouais. J'ai quasiment terminé. Enfin, ça s'arrête pas parce que j'ai encore plein d'idées d'intervention dans le métro. Mais les grands panneaux, j'en ai une dizaine et voilà, j'aimerais bien les montrer. J'aimerais bien trouver l'espace approprié pour les montrer.
C'est vraiment des panneaux 4 par 6 là,
c'est les. Non, c'est du 2 par 1,50.
2 par 1,50. D'accord.
Mais en fait, c'est assez fort et donc si tu mets tous les panneaux à côté, par exemple, le message se brouille, en fait. Il se bouffe entre eux, en quelque sorte. Donc, il faudrait vraiment une galerie où il y a de l'espace. D'accord. Pour pouvoir circuler et raconter toute cette histoire. Mais ouais, ça m'intéresse aussi d'avoir, tu vois, un geste fort, de pouvoir s'approprier l'espace public, de récolter un peu cette petite contestation quotidienne des passants qui finalement fait pas de mal, tu vois. Mais je trouve que c'est assez beau et même de créer, tu vois, une interaction avec les autres et que les gens me parlent, de voir qu'ils prennent des photos, que ça les interpelle. J'adore ça, en fait. J'adore aller dans ce genre de champ d'exploration.
Trop bien.
Voilà.
Alors tu exposes en ce moment au Bon Marché dans le cadre de mise en page avec Sarah Andelman. Qu'est-ce que tu y exposes? Explique-nous cette collaboration.
Ouais, bien sûr. J'expose trois grandes sculptures de livres, donc les Infinite Poems, ainsi que plein de petites éditions limitées que j'ai pu fabriquer qui soutiennent le livre. Donc tu as des marque-pages, des serre-livres.
Sous forme d'allumettes, hein, c'est les.
Oui, voilà, c'est ce que j'appelle les matchbooks. Donc c'est des marque-pages en forme d'allumettes.
Et ça, c'est arrivé à quel moment les matchbooks?
Donc les matchbooks, c'est arrivé après les tissue books. Ça, c'est à chaque fois très anecdotique, en fait, la manière dont je dont je procède, puisque j'étais en train de lire un bouquin génial de John Fante et j'arrivais pas à le lâcher. Et c'était une période où, je sais pas, je voulais plus corner mes livres. Enfin, c'est complètement con parce que je suis quand même en train de découper des livres et voilà. Mais bref, je voulais pas corner le livre et j'ai vu une petite allumette posée sur mon bureau et en fait, je l'ai mise en guise de marque-page pour garder cette page-là pendant mes courses et mon cheminement quotidien, quoi. Et toute la journée, j'avais la petite allumette avec le petit bout rouge qui dépassait et je trouvais ça trop beau parce que il y avait toute cette idée de la lecture qui nous enflamme et en même temps le potentiel tragique aussi de l'autodafé, tout ça, quoi. Et j'aimais bien cette image-là d'associer le livre avec le feu. Et donc, j'ai fait ces marque-pages qui sont en pâte à modeler, d'ailleurs. Pâte à modeler, mais cuite au four, bien sûr. Mais ce qui fait qu'elles sont... C'est pas de la céramique, donc c'est moins fragile. Donc tu peux quand même... tu peux les avoir comme un objet posé, je sais pas, dans ton salon, etc., sur un livre, mais tu peux aussi les trimballer et voilà.
D'accord. La pâte à modeler, c'est moins fragile que la céramique.
Bah ouais, parce que c'est plus flexible. Tu sais, d'accord. C'est...
Ah ouais, en fait, ça reste flexible après le...
Ouais, carrément.
Trop bien, ok. Je les ai pas vus en vrai, donc
ouais, faudra que tu passes voir.
Faut que j'aille voir. J'ai ce reste à faire.
Donc il y a les matchbooks, il y en a 100 exemplaires, ils sont tous uniques, tous modelés à la main.
Trop bien.
Tous cuits avec mon four ménager.
Ah ouais.
Ouais.
Incroyable.
Donc c'est assez drôle. Et ensuite tu as les serre-livres, donc qui sont comme des boîtes d'allumettes. Il y a les fameux tissue books dont je t'ai raconté l'histoire. Il en reste 3.
Tu les produis en série ?
Non, pas du tout.
C'est des
fait,
très limitées.
Ouais, bah, y en avait 10 à l'origine et là il en reste plus que 3. Donc d'accord. C'est les 3 derniers. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et aussi oui, il y a des ce que j'appelle les livres bougies. Et donc c'est un voilà, pareil, c'est une pièce avec une bougie sur un livre.
Hyper intéressant. Comment tu tout à l'heure, il y a un truc qui m'a marqué, c'était ce besoin de légèreté quand tu crées, quand tu produis. Et comment tu trouves tes idées. Il y a cette idée de comment je cherche de la nouveauté, de l'innovation, d'une certaine mesure, dans tes petits gestes du quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc qui t'attrape le regard, tu vois, dans quel état d'esprit tu te mets pour être sensible à ça?
Bah, j'ai l'impression que c'est l'irrationnel en fait qui mène le monde en quelque sorte, et que du coup on peut éprouver une série d'impulsions qui va nous surprendre nous-mêmes et qui passe par un geste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre de saisir quelque chose au vol qui d'un coup va t'interpeller et qui va te donner la matière pour raconter quelque chose.
Donc il faut rester très
Bah, je pense qu'il faut arriver à. J'aime bien aussi. Je crois que c'est David Lynch qui parle de ça, qui dit que trouver des idées, en fait, c'est comme aller à la pêche.
Ouais.
Tu vois, il faut que tu sois dans une sorte de disposition d'esprit où tu attends, tu espères, et tu vas attraper des petits poissons, des petits poissons qui sont à la surface, et puis les plus gros poissons qui vont être vraiment en profondeur parce que tu vas arriver au fur et à mesure à entraîner ton imagination et à aller plus profond et à plonger, tu vois. Donc, il y a un truc un peu comme ça.
Trop bien. C'est quoi la suite ?
Je sais pas. Je sais pas, c'est pour ça que c'est bien. C'est que je sais pas.
Ouais. Chaque chose en son temps.
Ouais.
C'est quoi ton rêve ?
Mais pareil, si je le savais, ce serait un peu triste. Non, je sais pas, vraiment. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de continuer à faire ce que je fais. Et voilà, que les choses prennent du temps et que je suis pas pressée et que je veux faire les choses bien avec les bonnes personnes. Voilà.
Et en parallèle, t'as cette activité de DJ.
Exactement. Et en fait, heureusement.
Tu kiffes toujours à le faire?
Ouais, complètement. En fait, je kiffe d'autant plus de le faire maintenant parce que j'ai compris aussi pourquoi je le faisais. C'est-à-dire que ça venait en balance me permettre de faire toutes mes expériences, tu vois. Comme je produis tout ce que je fais, comme je fabrique tout ce que je fais, bah voilà, si je loue un atelier, bah c'est à ma charge, bien évidemment. Bah en fait, mixer, ça me donne aussi les moyens de me payer, tu vois, ce rêve,
cette
quoi.
Liberté, ouais.
Et cette liberté de produire des choses aussi qui sont peut-être pas nécessairement commerciales. Bon, tant mieux si ça fonctionne, mais je suis pas obligée de les vendre, en fait, parce que la musique me rapporte assez d'argent pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire à côté, quoi.
Comment tu choisis
en toute liberté.
Comment tu choisis tes projets?
Comment je choisis mes projets? Je sais pas, je m'écoute, quoi. Mmh. C'est de l'instinct. Il y a cette phrase aussi de Louis Buñuel qui dit « Ce que je fais pas pour un dollar, je le fais pas pour un million de dollars. » Voilà, c'est juste j'ai envie d'être en accord avec, avec mes valeurs, mais je le fais quand j'ai envie de le faire, quoi.
Ouais. T'as fait pas mal de trucs avec la mode, un peu, quand même. Mm-hmm. T'as collaboré beaucoup avec la mode, de moins en moins. J'ai l'impression, non? Tu le fais de moins en moins.
C'est quoi? Qu'est-ce que t'appelles collaborer?
Je sais pas, à un moment donné, t'avais peut-être ce côté aussi un peu...
Photo et tout, machin?
Photo, influenceuse, tu vois, femme d'influence. En plus, les marques t'aiment bien parce que t'es à la fois DJ, t'es jolie, t'es artiste, etc. Donc c'est très bankable et c'est bien pour l'image de marque. Mm. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas peur de se faire corneriser? Et comment est-ce qu'on se protège de ça?
Ça veut dire quoi, corneriser?
Bah, de devenir en fait l'influenceuse que tout le monde veut et de dire oui à tout.
Ok.
Et ensuite de dépendre de ça et de se retrouver à dire oui à tout, quoi.
Ouais, non, en fait, moi, c'est plus facile je dis beaucoup oui dans la musique. Mm. Après, tout ce qui est image, tout ça, en fait, j'ai pas trop envie de m'associer, pour être honnête, en tout cas, artistiquement parlant. Oula, elle est horrible, cette phrase. Non, mais voilà, je suis un peu plus méfiante. Je dis pas que je vais pas le faire. Il y a des propositions qui peuvent être super intéressantes, mais voilà, pour l'instant, j'aime bien ma liberté. Et même si je l'ai fait par le passé, peut-être que ça m'a un peu échaudé, quoi. Ça m'a gonflé, en fait.
Ça t'a saoulé.
Ouais.
Non, et puis t'as cette liberté folle avec la musique.
Voilà, donc finalement, j'ai pas vraiment besoin. Donc s'il y avait une collab super pertinente, qui faisait sens, pourquoi pas? Mais je suis pas à la recherche de ça. Pas du tout.
T'as un agent qui s'occupe de ça ou pas du tout?
De l'image? Ouais. Non. C'est vrai que j'ai un peu Jérôme, qui est plus un mentor et un peu comme un parrain, qui est derrière moi. Ensuite, en musique, j'ai un très bon agent, Grégory, qui est chez Super. Mais en image, non, j'ai personne.
Super, c'est une quoi? C'est une boîte de...
Super, c'est des tourneurs.
Ok.
C'est des tourneurs et ouais, ils font plein de choses.
Ils font quoi?
Ils font tourner plein de groupes, ils s'occupent aussi de plein de festivals, toi t'as les Inrock par exemple, et là ils lancent en fait un département qui est un peu plus événementiel qui s'appelle Playground Love, avec l'idée de faire aussi participer des artistes à des événements un peu plus... il faut que les artistes bouffent aussi, donc il y a un peu ce truc là, quoi. Mais ils sont vraiment bien.
Trop bien. T'as été vraiment smart à chaque fois de te faire accompagner par les bonnes personnes. T'es hyper structuré, en fait.
Tu le trouves?
J'ai l'impression.
Ok. je sais pas. En fait, moi, je me rends pas compte, mais je pense qu'on est plus fort quand on est ensemble, quoi.
Bah oui.
Plutôt qu'isolé. Alors, ça a ses limites parce qu'il y a plein de choses. Le truc, c'est qu'il y a plein de choses que moi, je ne sais pas faire toute seule. Donc, j'ai tendance aussi beaucoup à m'entourer et à déléguer. Et par moments, ça peut aussi avoir ses limites, tu vois, de trop déléguer, quoi. Mais je suis plus cette personne-là.
Et en même temps, tu fais tout toi-même.
Oui et non.
En tout cas, ce qui concerne ton travail, quoi.
Oui et non, parce qu'il y a des choses que, par exemple, en céramique, tu vois, genre mes serre-livres, moi, je fais la maquette. Au début, on va dire que je la fais en carton. Ensuite, je la fais en céramique. Mais ensuite, je travaille avec une céramiste qui me fait les exemplaires. Parce que moi, je ne sais pas maîtriser les cuissons, je ne sais pas maîtriser un four.
D'accord.
Donc, ce n'est pas sur tous les objets. Les sculptures de livres et tout, je travaille avec quelqu'un. Mais ce n'est pas tous les objets non plus. Mais il y a des terrains où je me dis, je ne suis pas assez solide. Donc, je m'entoure. Ouais.
Il y a un concept qui est revenu beaucoup aussi dans les interviews que j'ai pu lire de toi, c'est le wabi-zabi.
Ah oui, oui. Trop marrant, j'en parlais il y a longtemps, de ça.
C'est quoi le wabi-sabi et pourquoi c'est important pour toi? Enfin, pourquoi t'en parler autant?
Mais du coup, j'ai plus envie d'en parler maintenant, si tu me dis que j'en parle trop.
Ça marche, on n'est pas obligé d'en parler.
Voilà.
Allez googler ce que c'est que le wabi-sabi. Et c'est intéressant, il y a un livre sur le sujet qui est hyper cool. Moi, que j'avais vu chez Le Labo, parfumeur.
Oui.
Comment tu restes inspiré et connecté au monde? Comment tu te nourris?
Je me nourris tout le temps, quoi. Je, tu vois, je me nourris beaucoup. C'est un peu cliché de dire ça, mais je me nourris beaucoup de la rue. J'adore me balader.
Tu marches beaucoup.
Ouais, je marche beaucoup. Je prends beaucoup le métro. C'est comme ça que je me nourris. J'écoute énormément de musique. J'écoute tout le temps de la musique. J'ai toujours mes écouteurs. Je vais quand même pas mal au cinéma. Tu vois, là, j'ai vu ce film là de Wim Wenders, Perfect Days. Tu l'as vu?
Non.
C'est trop beau. C'est tellement beau. Sur l'histoire d'un garçon qui nettoie les toilettes à Tokyo. Et qui parle beaucoup de l'infraordinaire, quoi, de toutes les petites choses de la vie, des rituels et tout. Enfin, ça m'a vachement touchée. Donc non, mais c'est comme ça que je me nourris, je pense, comme tout le monde.
Très bien, cool. Bah, écoute, on a fait un joli tour. Est-ce qu'on a parlé de tout ce qu'on devait parler d'après toi? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a des sujets que tu avais envie d'aborder qu'on n'a pas forcément abordé?
Bah non, moi ça me semble bien.
C'est bien, hein?
Ça va, ça allait?
Moi je trouve ça super. Ouais. C'est vrai en plus. Oh
là là, ça me fait trop peur de parler.
Non, t'as pas dit de bêtises, t'as pas dit de méchanceté, mais c'est pas le genre, je crois. Et non, pour transmettre le relais, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Alors, j'aimerais passer le micro à mon ami Victor Caden,
okay,
qui est artiste.
Très bien.
Voilà, je vous engage à regarder son travail. Il vient de faire une tapisserie magnifique avec Aubusson et une exposition de ses dessins à la Galerie Chenel. C'est super.
T'as fait des choses aussi avec la Galerie Chenel?
J'avais présenté des sculptures. Ouais, j'avais présenté des sculptures.
Ça, c'est un travail que tu avais fait à quel moment?
C'est un travail que j'avais fait il y a quelques années, peut-être, je sais plus, peut-être il y a 5 ans, un truc comme ça. En fait, j'étais partie à Tel Aviv et en allant sur une plage, j'avais trouvé des cailloux. En fait, en marchant sur la plage pieds nus, j'avais enregistré le son des cailloux parce qu'il y avait un son qui était très particulier, pas un son de cailloux normaux, quoi, bizarrement. Et en partant, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre une petite poignée, comme ça j'aurai le souvenir quand même de ce moment. Et en ouvrant ma main, j'ai vu des sculptures qui ressemblaient à s'y méprendre à des gens harpes. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tout est déjà là, en fait. Et donc, je les ai ramenées dans ma valise et j'ai décidé de les numériser et de les agrandir. Et donc, j'en ai fait des gros gens harpes, enfin des gros cailloux, quoi, 3D. Et,
en quelle matière?
En marbre.
D'accord.
En marbre et en pierre de tercé, ça s'appelle. Et l'idée, c'était de les mettre en parallèle avec le son de ces cailloux. Et j'avais présenté ces sculptures à la Galerie Chenel pendant une exposition collective. Ouais.
Trop bien.
Voilà.
Parfait. Merci infiniment, Inès.
Merci beaucoup.
Salut.
Salut.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.